Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission des Attachés de presse. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mars. Je suis bien heureux d'être avec vous en ondes. Et aujourd'hui, ce sera encore une fois une courte émission. Hein. La session ici, on a des étudiants qui font ça bénévolement. Donc des fois, on a toutes sortes de contraintes qui font qu'on ne peut pas donner notre 114%, pour être bien exact. Hein. Et donc... Aujourd'hui, c'est ça. Les sujets qu'on va traiter, en fait, il va en avoir quatre. On a quatre chroniqueurs. Moi, d'abord, je vais vous parler d'Yves Michaud. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Yves Michaud, en fait, c'est un grand homme dans l'histoire politique et même économique, diplomatique, juridique. Journalistique, juridique du Québec. Et donc, je vais, disons, honorer sa mémoire parce que parfois, en tout cas, vous allez voir, là, je ne vais rentrer pas là-dessus parce que... On va l'aborder plus tard. Mais donc, on va passer à nos fidèles collaborateurs qui sont en ondes. Donc, Lily-Jeanne, bonjour.
Allô!
Donc, de quoi tu nous jases aujourd'hui, Lily-Jeanne?
Aujourd'hui, je vais vous parler des événements qui sont arrivés à Moscou vendredi soir dernier. Notamment, il y a eu une attaque dans une salle de concert. Puis on va en discuter, analyser est-ce que c'était un attentat terroriste, qui était à la cause de cette attaque-là. Puis ça va nous mener à parler un peu de Poutine aussi.
Bien, parfait. Et donc, nous avons aussi notre fidèle chroniqueur de longue date qui vient de façon récurrente, Eden Bélanger. Bonjour, bonjour.
Bien, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous.
C'est un plaisir pour moi.
De quoi tu nous parles aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième voie. Il y a un récent livre qui est sorti de Éric Montigny, notamment, sur et d'un autre collaborateur dont j'oublie le nom actuellement, là, mais qui un peu explique l'histoire de ce qu'on a appelé la troisième voie au Québec, de la DQ à la CAQ. Et c'est un livre qui est un peu triomphaliste. Là. On va y revenir.
Bien, parfait. Et nous avons un invité avec nous qui était sa première participation à l'émission, Camille Lavallée, un étudiant ici à l'École de politique appliquée. Bonjour.
Bonjour.
Donc, de quoi on jase aujourd'hui, Camille?
Aujourd'hui, j'allais parler de RFK Jr., en fait, dans l'ensemble de le phénomène qu'il est et son parcours, etc.
Donc, Robert F. Kennedy Jr., qui est en fait le neveu de l'ancien président John F. Kennedy, le fils du frère Robert F. Kennedy, qui avait été ministre et candidat à la présidentielle.
C'est exact.
Lui aussi assassiné.
Oui.
Et donc, Robert F. Kennedy Jr., en fait, c'est un homme qui était démocrate, qui est désormais candidat indépendant au présidentiel. Donc, de ce que j'ai compris, ce que tu vas analyser, c'est un peu... C'est pas la même troisième voie qu'Éden, mais c'est est-ce qu'il émerge une troisième voie en ce moment dans l'élection présidentielle?
C'est exact.
Eh bien, ça va être fascinant. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Eh bien, on pourrait discuter un peu d'actualité, mais je vais tout de suite lancer. Bien, en fait, c'est de l'actualité brûlante, tragique, qui a eu lieu en Russie en fin de semaine, alors qu'il y a eu une grave attaque dans un théâtre à Moscou. Et Lily, je vais te laisser revenir sur l'événement et l'analyser.
Oui, merci Renaud. On en parlera un peu plus tard, inquiétez-vous pas, on va revenir tout là-dessus. C'est dans ma chronique.
Ah ben c'est ça, je voulais te lancer sur ta chronique.
On commence tout de suite ma chronique.
Oui, j'allais partir là-dessus.
OK, désolé. Bon, merci Renaud. Je tiens à mentionner, ma voix est un peu craquée de la fin de semaine. Je tiens à mentionner que vendredi, c'était l'annuel 20 fromage de l'École de politique appliquée, justement.
Ben oui.
Donc, un gros merci à tout le comité organisateur qui a participé pour organiser la belle soirée, aux bénévoles, aux étudiants, aux enseignants et à nos partenaires qui étaient Estriae, Traïs, Kebonge, Festival des traditions du monde et Festival cinéma du monde de Sherbrooke. Donc, pour commencer, c'était une petite commandite, là. Donc, effectivement, Renaud, il y a eu une attaque armée suivie d'un incendie aussi dans une salle de concert à Krasnogorsk, Moscou. Il y a eu au moins 137 décès dans la salle de concert, dont 180 182 personnes ont été hospitalisées, incluant 5 enfants. Encore aujourd'hui, il y a 60 adultes et un mineur parmi les blessés qui sont dans un état grave. Selon une journaliste présente, les individus étaient en tenue de camouflage et ont fait éruption sur le parterre de la salle de concert avant d'ouvrir le feu et lancer une grenade ou un type de bombe incendiaire, ce qui a provoqué ensuite l'incendie. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a dénoncé un attentat terroriste sanglant. Là, je le dis en guillemets, parce que pour elle, c'était un attentat terroriste. Ensuite, on a accusé l'Ukraine, puis elle a rapidement nié toute responsabilité, mettant même en cause les services secrets russes à la place. Au final, l'attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste de l'État islamique. Et c'est là qu'on va rentrer dans le creux de l'histoire. Pour commencer, qui est l'État islamique? Pour ceux à la maison qui écoutent et qui ne savent pas, l'État islamique est un groupe armé dit terroriste, djihadiste. Donc, djihadiste qui prône l'utilisation d'une violence extrême, notamment avec les attaques terroristes, afin d'instaurer l'État islamique ou de rétablir le califat. Califat étant le territoire et la population musulmane dirigée par un prophète de Mohammed. Donc, ensuite, pourquoi ce groupe islamiste s'en prend à la Russie? On sait que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'État islamique est parti, surtout sa branche en Afghan, ça il faut mentionner, a multiplié les actions afin de mobiliser directement en Russie des musulmans radicalisés contre l'État russe. L'État islamique reproche à la Russie les guerres qu'elle a menées en Tchétchénie et en Syrie, on s'en rappelle. Il reproche aussi son intervention en Afrique de l'Ouest quand il était aux côtés des régimes maliens et puis burkinabés, notamment au Sahel, ainsi que les tentatives de rapprochement avec les talibans afghans. Donc, l'attaque est pas censée être surprenante parce que l'État islamique est toujours en opposition à la Russie dans les conflits qui... dans les conflits internationaux, dans le fond. Puis en plus, vu le 2 semaines, l'ambassade américaine en Russie avait averti le Kremlin qu'elle avait des informations selon lesquelles des extrémistes de l'État islamique envisageaient de cibler des grands rassemblements à Moscou. Par contre, Vladimir Poutine, de son côté, a rejeté les déclarations et a dit, en guillemets, je cite, « Tout cela ressemble à du chantage pur et simple et une volonté d'intimider et de déstabiliser notre société. » Pourtant, un peu plus tôt dans le mois, les services secrets russes avaient démantelé dans le Caucase du Sud une cellule de l'État islamique qui prévoyait attaquer 2 synagogues à Moscou. Il y a notamment des foyers de radicalisation en Russie connus depuis des années. Dans les derniers mois, par contre, tous les yeux étaient rivés sur l'Ukraine, donc on a un peu délaissé la vivacité des foyers qui continuent à être alimentés, notamment par les combattants russes qui revenaient du conflit en Syrie. Ces derniers ont pu contribuer à former ces cellules clandestines-là, comme celles qui revendiquent l'attaque terroriste de vendredi. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois non plus que l'État islamique s'attaque à la Russie. Il y a eu 2 attentats revendiqués en 2016, 3 en 2017, 2 en 2018 et une en 2019. Tout ça à l'extérieur de la région du Caucase, évidemment. Donc, c'est là qu'on va analyser un peu l'action de Poutine dans tout ça. Parce qu'évidemment, il continue de nier que ça pourrait être les services secrets russes et il ne mentionne pas à sa population que c'est l'État islamique. Il continue de mettre de l'avant que les terroristes auraient un certain lien avec l'Ukraine. Donc, est-ce que, selon vous, Poutine, est-ce qu'il y aurait une raison de faire ça? Moi, mon point de vue, c'est que évidemment, il se sert de ça pour justifier encore sa présence en Ukraine, pouvoir continuer à justifier la guerre qu'il mène et aussi dire « je suis un symbole de sécurité pour ma population russe, veuillez me garder au pouvoir ». Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je ne sais pas si pour vous, Renaud...
Bien, en fait, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est comment Poutine est arrivé au pouvoir, en fait. C'était sur l'image que c'est quelqu'un qui bute les terroristes, qui vraiment les pourchasse partout et qui a réussi justement à gagner la guerre en Tchétchénie, qui sous son prédécesseur n'avait pas été gagnée. On se rappelle la Tchétchénie, une zone du Caucase, comme tu as mentionné, à prédominance musulmane, qui voulait être indépendante, mais qui en fait avait aussi par le fait même une forme de résistance armée, mais qui parfois se retournait contre la population civile aussi. Sauf que comment Poutine a réagi, ben c'est en démolissant complètement, en bombardant, puis en faisant des massacres en Tchétchénie. Et historiquement, c'est pas la première fois non plus qu'il y a des... Si on remonte il y a 20 ans à peu près, 20-25 ans, il y avait beaucoup d'attentats. Il y a eu des attentats tragiques, des prises d'otages, notamment dans un théâtre en 2002. Il y en a dans une école en 2004, si je me souviens bien, qui avait fait aussi des centaines de morts. C'était assez tragique. Mais on n'en voyait plus beaucoup. On n'en voyait plus beaucoup, donc on pouvait pas... Donc Poutine... Ça déconstruit un peu l'idée de l'homme fort, invulnérable, qui protège le peuple, qui a été construit, cette espèce d'appareil sécuritaire?
Le plus impressionnant de tout ça, selon moi, c'est que les Américains, les services secrets américains, avaient averti la Russie que cela allait arriver 2-3 semaines à l'avance. On avait dit, attention, dans les salles de théâtre, dans les salles de concert, ils risquent, selon nos informations, d'avoir un très grand risque d'attentat terroriste. Puis c'est exactement arrivé. La Russie les a pris comme des provocateurs, intimidateurs, mais c'est fou comment les États-Unis ont encore des services secrets incroyables, capables de savoir tout ce qui se passe dans le monde, même chez leurs pires ennemis, là, carrément. Ce que moi je remarque aussi, c'est le traitement, je sais pas si vous avez vu, mais le traitement des terroristes, des présumés terroristes qui ont été arrêtés là, dans les derniers jours, puis qui ont comparu hier devant les tribunaux russes, ils sont fait torturer là, carrément, là, mais d'une manière assez incroyable. Là. Si vous regardez les images, ils sont carrément mauves, là. Ils sont fait défigurer. Il y en a un qui s'est fait couper une oreille, l'autre qui s'est fait électrocuter. Ils ont eu vraiment toutes les ressources possibles. Puis peut-être que Poutine veut renforcer son image justement de l'homme fort qui tient tête aux terroristes. Puis moi, j'ai vu sur les réseaux des gens qui disaient « Regardez quelqu'un qui fait bien ça, qui tient aux terroristes, mais... comment démontrer justement que t'es pas un état de droit, tu sais? » C'est comme si la meilleure manière de le faire, là, tu sais, c'est du style Guantanamo, c'est du style que si ça serait dans n'importe quel pays d'Occident, ça serait complètement contraire aux droits de l'homme, même si c'est les pires terroristes. Là. Ces gens-là ont quand même des droits. Là. Donc, c'est assez incroyable de voir aussi comment la Russie, en fait, est assez arbitraire comme état, là, aussi. Là.
Mais j'ai de la misère à voir comment Poutine voudrait profiter de la situation un peu parce que il vient d'être élu avec, 89%, je pense, des votes.
87, oui.
87% des votes, donc qu'est-ce qu'il a à prouver en tant que tel en profitant de cette tragédie-là?
Mm-hmm. Ouais, c'est difficilement explicable, effectivement.
Puis aussi, une autre question, est-ce que le fait sur lequel le groupe s'en allait vers l'Ukraine, ça a été confirmé ou...
Il n'y a eu aucune confirmation.
C'était pas une... c'est juste une parole.
C'était la manière d'embarquer l'Ukraine dans le loop, mais dans les faits, selon les infos qu'on a, l'Ukraine n'a aucun rapport avec tout ça. Là.
Mais encore là, je me pose encore la question de savoir pourquoi on voudrait mettre le blanc sur l'Ukraine puis renforcer la position russe dans le conflit. Il y a quand même 87% des voix qui ont voté pour lui. Donc
mais ce chiffre-là est à prendre avec des grosses pincettes dans le sens où il y a eu du bourrage d'urne, il y a eu du suppression de l'adversaire politique. Donc, est-ce vraiment 87% des Russes sont pro-Poutine? J'en doute.
Ouais.
Sûrement, il y a quand même une opposition. Puis il y a même dans certaines régions de la Russie, plus limitrophes à l'Ukraine, des milices qui sont contre la guerre, qui combattent là, en Russie. Donc, il y a peut-être toute cette vision-là de vouloir renforcer l'État russe, de montrer que l'État n'est pas qu'un géant au pied d'argile.
Puis aussi, il faut se rappeler la construction qui est faite de l'État ukrainien en ce moment par les Russes depuis l'invasion, que l'idée selon laquelle c'est des fascistes et des nazis. Il y a une sorte de... On en fait tellement un régime qui serait diabolique qu'on peut leur imputer toutes sortes de motivations ultra cyniques et nihilistes, comme le fait d'aller tuer des civils dans un attentat. Donc, imputer ça à l'Ukraine, ça n'a pas de fondement dans la réalité, en tout cas selon tout ce qui est démontré en ce moment. Puis il y a bien plus de chances, comme les gens t'ont dit, qu'avec tout le passé puis l'historique de lutte de la Russie contre l'islamisme, ce soit ça, en fait, ce soit cette vieille bataille-là qui revienne, en fait. Parce qu'il y a aussi, on n'entend plus parler beaucoup de l'État islamique là, depuis une couple d'années. Mais sont encore très actifs dans plusieurs zones, notamment en Afghanistan. C'est ça qui est étrange, c'est que ils combattent les talibans. Les talibans qui sont eux-mêmes...
Ils n'ont pas la même vision du djihad, en fait. C'est surtout ça. Là.
C'est ça.
Ouais. Puis l'État islamique, surtout, est beaucoup en Syrie encore. Puis la Russie combat contre l'État islamique en Syrie directement aussi.
Au Sahel aussi.
Ouais, au Sahel, c'est un peu moins l'État islamique, par contre. Là. C'est...
Ben, c'est Boko Haram qui est
Boko
un peu affilié.
Ouais. Mais c'est effectivement...
Ce qu'il faut dire aussi, comme je veux juste mettre ça, là, notamment au Sahel, il y a beaucoup de bandes criminelles qui, pour se donner une légitimité, vont dire qu'ils sont affiliés à l'islam et qu'ils font ce qu'ils font au nom de l'islam, mais en fait, dans les faits, ça n'a rien à voir. Là.
Mm-hmm. En tout cas. Exactement. C'est ça, je crois qu'on en parlait l'autre jour dans un cours, c'est qu'effectivement, les gens qui s'associent aux bandes terroristes ont souvent tendance à dire « Nous sommes avec l'État islamique ou avec tel, 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 tel », mais en faisant des actions extrêmement dangereuses ou quoi que ce soit sans nécessairement avoir la preuve que c'est ça. Donc, est-ce que vraiment, oui, il y a eu un tweet ou des informations, je ne sais pas si c'était sur X là, que quelqu'un avait dit ça. Oui, c'est l'État islamique, on revendique l'attaque, nanana. Mais est-ce que c'est réellement l'État islamique? On ne le sait pas. Oui, toutes les preuves mènent à ça, mais ça, c'est encore un truc qui est...
Il y a un brouillard de guerre qui existe.
C'est ça, non? T'sais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parce que ça peut peut-être pas être la cellule de l'État islamique non plus. T'sais.
Eh bien, on va aller en pause, puisque la pause est due pour arriver. Mais merci beaucoup, Lily-Jeanne, pour ce topo très pertinent.
Ça fait plaisir. Merci, Renaud.
À toutes. De retour en onde. Donc, maintenant, après avoir parlé de ce qui s'est passé en Russie, eh bien, nous retournons en Amérique, America, parce que America, ça brasse.
Oui. Ben, d'abord, ouais. Merci de me recevoir. C'est vraiment un honneur. Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Je vais vous parler de RFK Jr., non pas en tant que personne, mais plutôt en tant que phénomène. Pourquoi? Parce que le candidat est polarisant. Il a eu des propos controversés, il s'est fait reprendre. J'ai pas envie de profiter de cette tribune pour convaincre qui que ce soit que le personnage a raison ou pas, et pourquoi vous devriez voter. Pour un, de un, tu peux, on peut pas, et de deux, j'ai clairement un biais face au candidat. Ceci étant dit, je crois qu'au final, ce que vous pensez de la personne vous appartient, mais si cette chronique vous a intéressé, je vous encourage fortement à pousser plus loin que ce que vous avez pu voir par le passé et de découvrir le candidat sur un format de longue durée. Où est-ce qu'il peut s'exprimer, ses idées et ses valeurs. Personnellement, j'en suis venu à la conclusion qu'il s'agit non pas du moins pire, mais du meilleur choix présentement offert aux Américains. Pour venir à ma discussion d'aujourd'hui, oui, le candidat m'intrigue, mais la chose qui m'intéresse beaucoup plus, c'est d'analyser la politique américaine dans un contexte particulier, soit la possibilité d'une course présidentielle à trois candidats. Le mouvement Kennedy prend de la force, du momentum à chaque jour. C'est extrêmement rare aux États-Unis de voir un candidat indépendant avoir ce genre d'influence. Mais ce n'est pas pour autant unique. Le cas le plus récent dans la politique américaine moderne s'est déroulé en 92 avec Ross Perot. Et ce qui est fascinant, c'est que cet exemple-là s'approche à maintes reprises du cas Kennedy aujourd'hui. Les deux candidats se sont fortement impliqués au centre de leur société dans le but d'améliorer les conditions des citoyens. Perot a lancé une campagne qui visait à libérer les prisonniers de la guerre détenue au Vietnam. Et Kennedy, lui, c'est un avocat et environnementaliste qui s'est battu contre les corporations pour établir des accords de protection de la rivière, entre autres Hudson. Les deux candidats présentent les mêmes circonstances électorales. Il y a un nombre d'électeurs qui sont prêts à supporter un candidat qui briserait la lutte entre les deux partis traditionnels.
En ce moment, dans les sondages, c'est à peu près 11-12%.
Ça varie vraiment. Pour vrai, ça va de 9 à 22%, j'ai pu voir tantôt. Là. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de voir... Parce que il prend des votes de gauche puis de droite aussi, puis ils rassemblent ensemble. Mm-hmm. Donc c'est ça, on sent vraiment que les Américains sont tannés de devoir choisir entre le moins pire. Et la dernière chose que aussi, j'aimerais soulever, la comparaison qu'on peut faire, c'est l'utilisation de formats de longue durée pendant leur campagne.
Oui, ils participent à beaucoup de balados, c'est ça?
Oui, beaucoup de balados. Puis Perot aussi avait fait la même chose, avait acheté à place de faire des publicités à court format, c'était des 30 minutes d'infopub, c'était vraiment intéressant. Mais il faut se poser la question... Pourquoi, lorsque les candidats indépendants détiennent un certain succès, je me ramasse à la radio pour en parler? Tantôt, j'ai utilisé le terme phénomène et je ne prends pas à la légère. Plusieurs règles électorales ont été mises en place volontairement par le Parti démocrate ainsi que le Parti républicain afin de maintenir le système bipartisme en place et exclure les tiers partis de se représenter à la course présidentielle. Nombreux sont ceux qui se sont levés face à ces limites démocratiques, disons comme ça, que le système bipartisme a implanté. Que ce soit à gauche, à droite, au centre, que ce soit des indépendants, des organisations, pardonnez-moi, les contraintes sont dénoncées partout en ce moment aux États-Unis. Récemment, je suis tombé sur un article du World Socialist Website qui dénonçait sévèrement le comportement des démocrates face à l'arrivée des élections 2024. Dans l'article, on y dégageait que le président Biden sentait une pression monter ou carrément une peur que les tiers partis représentent pour l'administration démocrate. On y reportait que le parti avait intensifié cette année ses efforts pour empêcher davantage les externes de figurer sur les bulletins de vote en novembre. Selon l'article, encore une fois, cette campagne serait dirigée contre les candidats représentant une menace suffisante pour faire changer la couleur d'un État. Mais avant même cette campagne que certains qualifient d'antidémocratique, se présenter en tant que candidat indépendant s'ajoutait d'une tâche extrêmement complexe. Des règles ont été mises en place volontairement, comme je dis tantôt, à la fois par le Parti républicain et démocrate pour empêcher les tiers partis de se présenter. Par exemple, l'accès aux bulletins de vote. Chaque État détient ses propres exigences en matière de bulletins de vote et de financement. Au moment où on se parle, le nom de l'ancien démocrate serait présent sur 4 bulletins de vote, le plus exigeant étant l'Arizona avec ses 42 000 signatures nécessaires pour faire apparaître une candidature.
Par rapport à ça, je checkais ça justement. Justement, je me demandais justement, parce que les sondages nationaux, ça ne veut pas dire grand-chose justement s'il n'est pas sur le bulletin de vote. Là. Ben là, sur 538, il dit qu'il serait sur 8 bulletins de vote, incluant DC, fait que 7 États. C'est juste 71 grands électeurs. Y a-t-il une chance d'arriver à un chiffre qui lui permettrait d'avoir un vote national considérable?
J'ai écouté une vidéo récemment qui parlait de c'est quoi les chances à Kennedy, puis ça prenait en compte s'il y avait les 50, son nom sur les 50 ballots des États et, le DC, le district de DC. Et la réponse plate, c'est non, il n'y a aucune chance. Ouais. Par contre, c'est l'impact que je suis venu parler plus que les chances. Parce que profondément, puis je le dis tantôt aussi, je ne crois pas vraiment qu'il y a des chances, mais je crois qu'il y a les chances d'avoir un impact à long terme sur la politique américaine, ce que je le souhaite. Fait, comme je disais dans le fond tantôt, c'est que lorsqu'on parle d'États comme fixes, comme la Californie ou le Texas, on parle respectivement de 220 000 et 110 000 signatures nécessaires pour faire apparaître son nom. Même si au niveau du ratio, le Texas demande une moins grande proportion pour atteindre 100 000 personnes pour avoir son nom sur le ballot, demande énormément de ressources pour n'importe quel Américain qui voudrait se présenter en tant que président. Pour faire apparaître sur tous les bulletins de vote, il faudrait un candidat indépendant 1 million de signatures au pays. C'est énorme. Cette campagne-là coûterait environ 15 millions de dollars à atteindre pour atteindre les 101 millions de personnes pour avoir les signatures. Puis j'aurais pas le temps de parler de toutes les barrières à la démocratie que le système bipartisan a vraiment construite à travers les années, mais je peux parler du financement électoral qui a été modifié avec le cas de la justice Citizens United versus AFEC en 2010. Certains savent déjà qu'est-ce que ça représente, mais je vais l'expliquer brièvement pour les gens qui ne sont pas encore complètement cyniques face à la politique américaine. En 2010, la Cour suprême a jugé que le financement d'un parti était une matière de liberté d'expression et la liberté d'expression est protégée par le premier amendement de la Constitution américaine, on le sait. Ce qui veut dire que les compagnies n'ont plus de limites financières envers les candidats et qu'ils peuvent déverser des sommes astronomiques afin de faire valoir leurs intérêts. Le financement public est rendu alors inutile. C'est les tiers partis qui pouvaient profiter d'une certaine égalité avant 2010 qui sont pénalisés par ça.
Juste pour vous montrer que des fois, les systèmes juridiques sont judiciaires sont différents. Au Canada, la même question s'est posée, notamment avec les lois électorales québécoises qui sont assez restrictives. Puis il y a le même, la liberté d'expression est aussi dans la Charte canadienne de droit et liberté. Là. Puis y a la Cour a carrément dit que, voyons donc, là, la société peut poser des limites à la participation au don électoral, ça n'a pas de bon sens de permettre une limite, aucune limite comme ça. Puis les États-Unis, en fait, dans ça,
c'est les grosses corporations qui prennent le contrôle.
Ben, c'est des super PACs, en fait.
Ben, c'est ça, exact. Ça fait n'importe quoi. Je veux dire, au Québec, on avait le scandale de la CAQ avec des affaires à 200$. Hey, la petite bière, là, ça, à côté de ce qui se passe là, on va se le dire. Là. Ouais. Des fois, on s'en rend pas compte au Québec à quel point on est chanceux.
Oui, vraiment. Mais je lisais justement la loi, le jugement qui a été rendu par la Cour suprême, puis la différence entre les PACs et les super PACs. C'est ça qui permet, en fait, les super PACs de donner illimité à des candidats. Parce que tant que tu ne donnes pas directement aux candidats, tu peux, en gros, donner toute ta fortune, puis ça dérange pas tant que c'est des publicités qui favorisent les candidats. Je parlais aussi des clivages. Je pense que ce qui peut être intéressant, justement, en analysant désormais la politique américaine, c'est de voir comment un parti indépendant va affecter le clivage gauche-droite durant la campagne électorale. On le sait, dans un système bipartisan, le choix déchirant entre la gauche et la droite favorise les extrêmes. Avec l'arrivée d'une alternative potentielle d'un candidat sérieux comme Kennedy, on vient perturber, ben sérieux, ça dépend des personnes qui l'écoutent, mais on vient perturber le système quand même. Je l'ai mentionné précédemment, certains acteurs sont déjà sur le cas et tentent de réduire les candidatures menaçant le pouvoir démocrate. Encore une fois, je pourrais parler de l'électorat canadien et dire ce qui pousse les gens à voter pour un troisième candidat, mais ce qui m'intéresse, c'est réellement de savoir comment ça va affecter les résultats. Plusieurs argumentent que Kennedy va voler des votes à Biden et certains disent que c'est plutôt Trump qui se ferait gruger quelques pourcentages, mais la réalité, c'est que c'est les deux qui vont être affectés. Et que le résultat final va juste être connu lors des élections. Réalistiquement, j'ai dit tantôt, est-ce que je crois que RFK Jr. détient une chance de gagner? Je l'espère. Mais je crois pas qu'il pourrait combattre le système en place. Par contre, il détient vraiment une chance d'avoir un impact qui pourrait changer la politique américaine à tout jamais. Le phénomène Kennedy, ça démontre une chose. Les Américains sont de moins en moins satisfaits de devoir choisir entre un criminel et un centenaire. Et que les partis auraient avantage à mieux représenter leur base électorale sous peine de perdre leur monopole face à une troisième puissance. Le système de Birbertis, c'est la dernière chose sur laquelle je vais déposer mon analyse. Plus précisément, la loi du verger face au phénomène Kennedy. La loi du verger, c'est une loi universelle chère aux sciences humaines qui avance qu'un système majoritaire comme le nôtre ou celui du voisin du Sud pousse un système à deux parties, en fait. Si Kennedy réussit un tour de force, il devient éligible dans les 50 États plus le district de Washington. On devrait réviser l'application de cette loi aux États-Unis comme on l'a fait au Canada. Les sondages démontrent un certain intérêt pour Kennedy, donc c'est une possibilité. La dernière chose que je voulais parler, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans le passé, c'est la campagne de Kennedy, je la trouve vraiment intéressante. Puis là, c'est plus mon côté éditorial, la section. Mais ce que j'ai vraiment aimé, puis que je trouve drôle, absurde même, c'est la campagne de Kennedy qui démontre sa force physique. Puis je crois qu'il y a des intérêts comme pour démontrer... Il y a un point clairement à faire. Ouais. Parce que Kennedy souffre de maladie et sa voix est dérangée justement par cette maladie-là. J'ai oublié le nom de la maladie d'ailleurs. Mais je pense que j'ai vu plusieurs vidéos tomber que c'est
la candidat... Il fait des backflips, là, il saute du haut d'une falaise
il fait des chutes, il fait des push-ups, il fait des... Il fait
puis il a quand même 70 montrer. Ans en plus, là. Ouais, ce qui le rend exceptionnellement jeune.
Il bench plus que moi.
Hein. C'est comme... comment on appelle ça? Le culte de la personnalité là, que Vladimir instaure en Russie. Justement, on veut faire le lien avec ça. Là, ça ressemble un peu à ça. Il manque juste l'ours. Pis,
Vraiment, mais tu sais, les photos de Poutine sur un cheval en torse nu, là, c'est vraiment... On dirait qu'il y a une approche qui est tirée un peu de ça et qui veut démontrer que c'est le candidat qui est en santé et qui peut justement comme tenir le pays en ordre. Mm-hmm.
Mais il y a
c'est
quoi?
Comme... Oh, excuse.
Mais il y a quoi? Il y a
71.
Il se rapproche des deux autres, tu sais, quand même, de là à dire qu'il est en santé.
Il a l'air en santé, à tout moi. En tout cas, je pense que sa campagne a fonctionné peut-être sur moi, mais il a l'air en santé pour vrai, malgré sa maladie.
Ben, c'est ça, mais ça évoque une forme de vitalisme un peu. Mm-hmm. Le fait que le candidat se montre en forme, évidemment, il y a une partie de théâtre puis de spectacle, mais c'est qu'est-ce qu'on cherche à évoquer avec ça?
Ouais.
C'est le fait que comme... on est encore capable d'avoir de l'initiative, de la dynamique, parce que quand on regarde le Parti démocrate, les élites du Parti démocrate, considérons seulement qui sont les alternatives potentielles à Joe Biden, je veux dire, c'est toutes des gens tellement âgés. Là. Le Parti démocrate, l'élite dominante de ce parti-là, c'est les New Democrats de l'ère de Bill Clinton qui sont tous rendus à peu près à 70 ans en montant, là. C'est quand même fou.
Ouais. Mais on parle d'une gérontocratie aux États-Unis en ce moment. Là, même que c'est les personnes âgées qui dirigent qui ont le pouvoir. Là.
Puis Robert Kennedy, à quelque part, il est quand même vieux, mais il est relativement plus jeune. Mm-hmm. Mais les idées qu'il met de l'avant aussi, c'est des affaires dont on n'entendrait pas beaucoup parler parce que notamment, il fait la promotion d'un programme d'entraînement. D'entraînement pour chez les jeunes pour qu'ils soient plus en forme, tout ça. Il parle de comment il y a beaucoup de maladies chez les enfants en ce moment. Mm-hmm. Bon, des fois, il plug là-dedans les vaccins et tout ça, puis là, ça devient bizarre.
Il y a un côté un peu coucou parfois. Là.
Mais en même temps, on peut peut-être l'expliquer son côté coucou par le fait que son père et son oncle ont été assassinés.
Ouais.
Moi aussi, je serais sceptique personnellement si ma famille était cible d'assassinat. Mais c'est vrai que des fois, ça dérape un petit peu. Mais en même temps aussi, il faut prendre en compte que c'est un expert dans le domaine, dans le sens que c'est un activiste. Puis il a vraiment renversé des grandes compagnies qui mettaient beaucoup d'argent pour taire le sujet, comme justement ces sujets environnementalistes qui a réussi à renverser, puis faire des lois pour protéger l'environnement. Il connaît un peu, je pense, sa matière. Des fois, il dérape, effectivement.
Oui, mais là où il est intéressant, je trouve, c'est quand il y a l'idée générale que... Puis c'est ça le problème qu'on parlait notamment avec Citizens United, c'est que le politique qui est censé représenter la volonté générale, la volonté du peuple, couche complètement avec les grandes corporations aux États-Unis. T'sais. Le lobbying qui est fait à Washington ou au sein des grandes agences de réglementation, notamment l'EPA, Environmental Protection Agency, c'est hallucinant.
Ouais.
On peut voir la même chose aussi dans la crise des opioïdes, qui est un gros problème aux États-Unis, mais maintenant aussi au Canada. Et le fait que on appelle ça le Big Pharma, joue un rôle. C'est pas conspirationniste de dire que ils ont eu un intérêt à vendre toutes sortes de médicaments sans mettre de pare-feu puis à rendre des gens on dirait que je parle beaucoup en anglais là, aujourd'hui, addict là, mais
dépendant.
Ben oui, Yves Michaud serait pas fier de moi parce que c'est un grand amoureux de la langue française.
Mais j'ai fait un travail justement sur toutes les super PAC, le Big Pharma, un peu dans le cours de Paul 102, politique américaine. Ça me ferait plaisir, si jamais tu veux j'en parle, ça me ferait plaisir d'en parler. Là. Je sais que Kennedy, il critique gros la FDA justement sur le fait que...
FDA, c'est...
C'est la Food and Drug Administration qui est responsable, en fait, de l'approbation des vaccins puis aussi de la nourriture, etc. Puis... C'est ça, je trouve que c'était vraiment intéressant de fouiller là-dedans. Il y a des choses bizarres qui se passent là-dedans, je pense, qui valent la peine, justement, l'influence de l'argent. Mm-hmm. Tu as parlé de la crise d'opioïdes qui a été façonnée dès le premier instant par les grandes
compagnies. Je dirais pas que c'était planifié, mais je dirais qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas activement cherché à la...
Ils ont profité, disons, d'une déchéance.
Ouais.
La crise d'opioïdes.
Donc, ben merci beaucoup. Ou est-ce qu'il y avait une ou deux phrases de conclusion?
C'est vraiment, écoutez, moi, je trouve que... Une autre chose que je trouve fascinante de Kennedy, c'est aussi que c'est comme un des seuls... un des seuls candidats à la présidence, pardonnez-moi, qui utilise les formats de longue durée. Je trouve que ça permet justement d'explorer vraiment qu'est-ce qu'il pense au fond de lui, puis ses valeurs, sa passion. Je pense que ça vaut la peine pour tous ceux qui ont peut-être un petit idée préconçue d'aller voir ça, d'être curieux puis de faire sa propre opinion là-dessus par la suite.
Eh bien, merci beaucoup, Kimuel. On va passer à la pause et on se revoit ensuite pour discuter avec Eden de la CAQ et de l'autonomisme. De retour en onde. Désormais, on va passer à Eden Bélanger qui va nous parler de la CAQ et sa démarche autonomiste. Disons que tu es assez critique de cette vision puisqu'elle ne semble pas aller à grand place, c'est tout ça?
Ben, en fait, mon point n'est pas d'attaquer la CAQ. En fait, on va parler de la troisième voie au Québec parce que c'est selon les deux, le politologue Éric Montigny et... J'ai Pascal, j'ai oublié son nom, mais Pascal Maillot, c'est vraiment, ce sont les 30 années aujourd'hui, parce que c'est les 30 ans de la fondation de l'ADQ en 94, suite au rapport à l'air au Parti libéral du Québec. Et ce qu'on dit essentiellement dans ce livre-là, je vous dis, je ne l'ai pas lu là, encore, là, mais c'est que la troisième voie a tranquillement dépassé le clivage souverainiste-fédéraliste, pris le pouvoir et... c'était la voie à faire et elle est encore bien vivante et etc. Le problème avec la troisième voie, c'est que c'est un peu une coquille vide comme concept. On peut le plugger dans n'importe quel régime politique, système politique bipartiste. Kemuel vient d'en parler avec aux États-Unis, mais la troisième voie...
En soi, ça veut rien dire.
La troisième voie au Royaume-Uni, c'est les libéraux-démocrates, souvent, qui l'ont eu, tandis qu'au Canada, anglais, on pourrait plus dire que c'est l'NPD.
En France, c'est Macron, puis il a pris le pouvoir.
Mais
effectivement, idéologiquement, c'est un peu vide.
Ben c'est pas que c'est vite, c'est que n'importe qui peut se réclamer de la troisième voie. Puis si on prend le cas québécois, la troisième voie, c'était quoi? C'était une espèce d'autonomisme, c'était ça. C'était
faire des gros gains dans le Canada.
Ouais, mais avant ça, c'était cette espèce de nationalisme qui était assumé, mais qui n'allait pas sur les questions constitutionnelles pour des raisons de pragmatique, là, surtout. Puis, ben, c'est vrai que cette vision des choses a eu une certaine traction dans les années 90, 2000 et 2010. Mais moi, ce que je soumets, c'est que c'est un anachronisme de la troisième voie encore aujourd'hui. Je check juste au Québec. Et en ce moment, il y a 5 partis qui ont plus de 10% des voix à donner à l'élection. Donc, quelle est la troisième voie dans ce parti-là? C'est-tu la CAQ? C'est-tu Québec solidaire? C'est-tu le Parti conservateur du Québec? C'est qui la troisième voie? C'est un concept qui, à l'éclatement des axes au Québec, n'a vraiment pas lieu d'être. Puis, c'est d'autant drôle parce que le gros argument de la CAQ, c'est qu'on a un peu remplacé le Parti québécois dans cette voie nationaliste. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire pendant depuis 2018 environ, je dirais, là, d'une manière assez claire, là, comme la volonté était d'en finir avec le Parti québécois pour devenir le Parti des Bleus, hein, comme Étienne Alexandre Beauregard aime le dire. Là. Le Parti québécois lui-même s'est déjà réclamé cette troisième voie-là. Je veux dire, si on regarde, lorsque le Parti québécois a émergé à la fin des années 60, c'était l'alliance entre les nationalistes, plus certains plus conservateurs, qui étaient néo-national, et les progressistes plus libéraux que le Parti libéral. Et ça donnait une espèce de nationalisme libéral-conservateur, qui était le Parti québécois sur René Lévesque, qui l'est toujours d'ailleurs, le Parti québécois, c'est pas super à mon nom. Donc, et eux aussi auraient pu se réclamer la troisième voie à l'époque. Nous sommes la troisième voie entre deux visions dépassées des choses. Et en fait, ce que la CAQ tente de faire, c'est pas faire une troisième voie, c'est ramener l'axe politique, l'espèce de dialectique entre les bleus et les rouges que la Révolution tranquille a un peu détruite en créant un parti.
Donc, juste pour ceux qui ne savent pas, parce que tu citais Étienne Alexandre Beauregard, donc c'est ça justement, les bleus, les rouges, ça veut dire quoi? Ça veut dire le vieil dynamique conservateur contre libéraux?
Ben, dans son dernier livre, Étienne Alexandre Beauregard, livre qui s'appelle « Le retour des bleus », et le sous-titre « Les racines intellectuelles du nationalisme québécois », ce qui postule essentiellement, c'est que l'opposition entre bleu et rouge et ce qui a façonné le Québec depuis la rébellion des Patriotes, ce qu'il explique, c'est du côté de les bleus qui sont des nationalistes plus attachés au bien commun, qui sont conservateurs par essence, et t'as les rouges qui sont progressistes, très libérales dans tous les sens du terme, et basés sur l'individualité de la personne, et qui sont antinationalistes par essence. Donc, on a...
C'est bizarre.
C'est une genre de dichotomie.
C'est un faux dilemme.
C'est un faux dilemme. Mais ce qu'on essaie de créer aussi, c'est cette espèce de vision que le nationalisme doit être conservateur. On voit qu'il est très critique du néo-nationalisme, de la Révolution tranquille, qui critiquait le nationalisme de Duplessis, parce que selon lui, on ne peut pas être nationaliste, vouloir conserver quelque chose si on le critique, ce qui, à mon sens, est une manière de ne pas avancer. Là. Ouais. Mais ça fit très, très bien avec la vision de la CAQ du nationalisme. En fait, c'est le maître à penser de François Legault, Étienne-Alexandre Beauregard, à mon sens, là, même s'il y a le tiers de son âge, là. Pratiquement. Là, c'est assez incroyable comment il est capable, parce qu'on lit le livre et on entend des phrases que Legault répète à tous les jours. Donc, comme par exemple, vous attendez le grand soir. C'est ça, lui.
Quand il critique le PQ.
Dites-nous
pendant ce temps-là, on agit pendant que vous espérez juste quelque chose qui ne viendra jamais.
Exact, c'est ça. Puis c'est un peu bizarre parce que c'est une conclusion assez particulière parce qu'on voit les rouges comme une espèce d'ennemi à abattre là, qui contient des gens qui vont de Lord Durham à Gabriel Nadeau-Dubois. Après ça, on parle de ça comme si c'était vraiment pratiquement, on les diabolise, mais notre conclusion, c'est pas l'indépendance du Québec, c'est la conservation de la nation québécoise pour ce que c'est.
Mais c'est une position, je trouve, assez peureuse et défaitiste, dans le sens que on s'empêche un peu d'oser.
Mais c'est une position particulière, parce que lui-même, il dit dans sa partie de la Révolution tranquille, par exemple, que la Révolution tranquille a été... Il dit très bien, il y a une très belle plume, Étienne Alexandre. Il dit la Révolution tranquille, c'est d'abord la victoire de Cité libre sur l'Action nationale. Cité libre, qui était la revue notamment dirigée par Pierre-Éliott Trudeau.
Et René Lévesque.
René Lévesque, très...
Pierre Valliard très aussi.
René Lévesque, sont pressés longtemps là. Puis Action nationale, c'est une revue nationaliste historique que notamment Lionel Groulx a précédé. Mais il dit, par un retournement de situation, c'est ensuite la victoire de l'Action nationale sur Cité libre. Ce qui veut dire essentiellement, c'est que c'est vraiment la conjonction entre nationalisme et progressiste libéral. Et donc lui-même, il explique que cette fausse opposition n'a plus lieu d'être de personne tranquille, mais il tente de la recréer pour justifier un peu l'existence de la CAQ.
Oui, parce qu'il travaille pour la CAQ aussi, il faut le dire.
Exact, c'est ça.
Étienne Alexandre Beauregard est au cabinet de François Legault.
Ça, mais c'est toujours la praxis de la troisième voie, c'est-à-dire dire... Nous, on va être la troisième voie à une chose en commun au Québec, c'est qu'elle a toujours été conservatrice. Que ce soit la DQ, la CAQ, la troisième voie a toujours été à la droite du centre, admettons, c'est comme ça. Parce que c'était un retour au bleu à l'ancienne, quoi.
Ah, le ciel est bleu, l'enfer est rouge.
Le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Et c'était vraiment ça. Et quand on voit la crise d'accompagnement raisonnable et tous ces enjeux-là, c'est de là que ça part. C'est cette logique de conservation qui... a des limites politiques incroyables.
Et justement, j'aimerais qu'on parle de ça parce que concrètement, là, ça fait 5-6 ans que la CAQ est au pouvoir. Avec cette ligne politique-là, autonomiste, on va dire, nationaliste conservatrice.
Ouais.
Concrètement, c'est quoi le bilan? Parce qu'on peut, après, je pense, 5 ans, faire un petit bilan de tout ça. Quel bilan est-ce que tu dresserais de cette ligne-là?
La plus grande critique qu'avaient les néo-nationalistes, la Révolution tranquille, du nationalisme conservateur de l'Union nationale, c'était qu'il était apolitique. C'est-à-dire que ce nationalisme était purement culturel et il n'avait aucune visée politique. Et je dirais que la même critique vaut pour le nationalisme de la CAQ. Le nationalisme de la CAQ n'a aucune visée politique. Il n'est que culturel, sociologique à la limite peut-être.
Et même là.
Et ben, même
le bilan de la CAQ en culture.
Ouais, mais culturel au sens large, inclut la langue et ces choses-là, les certaines socles,
les symboles,
les certaines valeurs sociales qu'on veut préserver par exemple. Mais il reste la politique. On voit réellement, quand on rembarque dans un débat qui est plus de nature constitutionnelle, qui est de nature réellement politique, on est incapable d'avoir une position qui est intelligible pour le commun des mortels. On n'est pas capable de défendre le Canada, qu'on n'est pas capable de défendre la souveraineté. Ce qui fait en sorte que la troisième voie n'en est pas une, ou elle les voit disparaître. Mm-hmm. C'est soit la troisième voie devient fédéraliste ou souverainiste, soit elle les voit disparaître. Et t'étais là, Renaud, mais j'avais fait une formation avec le GMPQS au début de l'hiver où on parlait de sophisme notamment, puis je leur demandais, est-ce que le dilemme souverainiste-fédéraliste est un faux dilemme? Est-ce qu'il y a, en parlant en troisième voie, il y a eu des très bonnes réponses, mais la conclusion souvent c'était, finalement, soit tu restes, soit tu sors du Canada. Tu peux avoir des nuances dans comment tu veux sortir, comment tu veux rester, mais il n'y a pas réellement de dilemme à avoir là. Donc, c'est pour là qu'on croit la troisième voie. Elle peut être une voie transitoire, historiquement, mais est-ce qu'elle a vraiment vocation à durer? Je pense pas que c'est une voie qui a vocation à durer. Mm-hmm. Tandis que la voie souverainiste, la voie fédéraliste existe depuis et bien avant les Patriotes. Je veux dire, le Parti canadien, avant la rébellion, c'était un parti qui était d'une voie plus, disons, indépendantiste à l'époque. Puis tu as toujours eu la Clique du Château, par exemple, ou d'autres partis comme le Parti libéral du Québec, qui est là depuis la Confédération, qui ont défendu le fédéralisme. Et ces partis-là ont survécu à travers le temps. Donc, encore une fois, j'ai vraiment de la misère à saisir l'essence de la troisième voie, si ce n'est qu'elle est une voie transitoire, comme une sortie d'autoroute entre deux autoroutes.
Ouais, comme un passage post-traumatique pour le fait que le fédéralisme renouvelé que prônait notamment Mulroney ou Bourassa, tu sais, la réconciliation avec le lac Mead, tout ça, a échoué. Et ensuite que le souverainisme en 1995 a échoué ou a été truqué, on ne rentre pas là-dedans sur le référendum volé, là. Mais bref, reste qu'on est dans un cycle depuis 25-30 ans où la troisième voie avait une prégnance, puis une portée dans un contexte où il y avait un épuisement des deux options. Mais en fait, est-ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que cette troisième voie-là en ce moment atteint ses limites.
Mais je dirais même historiquement, parce que la troisième voie, parce que c'est bien que tu parles de fédéralisme renouvelé, parce que le fédéralisme renouvelé, ce n'est pas la troisième voie. C'est une voie politique. Et rapidement, la DQ a abandonné cette voie-là. Rapidement. Puis lorsqu'elle a eu à se positionner à l'enjeu du référendum, en 95, la DQ, la seule fois où elle a se positionné sur la question constitutionnelle, elle a choisi un camp. Elle a choisi le oui, mais elle aurait choisi le non. Elle n'a pas de fait, genre, moi je reste là en background, je vous propose de quoi d'autre, ni oui ni non. Non. Ils n'ont pas pu faire ça parce que dans les faits, c'est oui ou c'est non.
Ils ont été actifs, ils n'ont eu pas
le choix de prendre un camp. Même s'ils n'étaient pas d'accord avec tout ce qu'ils disaient le camp du oui, ils n'ont eu pas le choix de rejoindre le camp du oui, ils auraient pu prendre le camp du non aussi. Cette troisième voie-là, elle n'a pas de fin politique autre que permettre un gouvernement de transition. Puis c'est là qu'on le voit, puis c'est là qu'on voit aussi pourquoi la CAQ descend aussi vite dans les sondages qu'elle a monté. Je veux dire. En un an, la CAQ a perdu 19 points dans les sondages. Je ne sais pas si à quel point c'est beaucoup de points dans les sondages, 19, là, mais c'est assez incroyable. C'est parce qu'il n'y a pas de base.
Ouais. Il n'y a pas d'idée de valeur fondamentale, de socle.
C'est difficile à dire. Ouais. Puis le Parti libéral n'a pas encore de chef, mais le Parti libéral a un chef qui a moins de moments de sens, ce dont je doute. Là, mais si ça arrive, la CAQ pourrait disparaître. Carrément, littéralement, elle pourrait disparaître après une élection. C'est même pas là. Elle pourrait avoir que 2 ou 3 sièges. Là. 20% des votes, ce qui est incroyable. On parle de parti qui a en ce moment 89 sièges. J'en ai eu 90 dans l'élection.
C'est intéressant comme prospective. On aura l'occasion d'en discuter puisque, en tout cas, la CAQ semble pas en voie de reprendre de la vigueur dans les sondages. Alors là, il nous reste 5 minutes et moi, je voulais parler un peu d'Yves Michaud. Mm-hmm. Donc, Yves Michaud nous a quittés la semaine dernière à l'âge de 94 ans. Ça faisait quelques années déjà qu'il souffrait d'Alzheimer, notamment. Mais c'est un homme que nous, notre génération, on n'a pas connu, qu'on ne connaît pas, mais qui a joué un rôle très important dans l'histoire québécoise. Il a été de tellement de batailles, de tellement de combats, et je trouve que c'est un modèle inspirant pour notamment nous ici qui sommes intéressés par la politique ou ceux qui nous écoutent, qui s'intéressent pas juste à la politique, mais à l'engagement citoyen aussi, puisque à la base, Yves Michaud n'était pas un politicien. Dans les années 50, en fait, il s'est formé en journalisme et il a été rédacteur en chef, notamment à Saint-Hyacinthe, d'un journal. Il a été très impliqué dans le journalisme, mais ensuite, il est devenu député du Parti libéral en 66, donc en pleine Révolution tranquille. Mais c'était un homme de conviction et... Lorsque, en fait, est survenu le débat sur le Bill 63, je ne sais pas si ça vous évoque des choses, un projet de l'Union nationale, en fait, sur la question de la langue, où on disait on va donner le libre choix aux gens pour l'école où ils veulent envoyer leurs enfants, que ce soit école anglaise ou école française. Ça sonnait beaucoup d'alarmes au niveau de l'anglicisation potentielle, notamment de Montréal. Et Yves Michaud était en désaccord avec son parti qui prônait, d'aller dans cette même voie-là et de ne pas défendre, à son avis, suffisamment le français. Et donc, il a claqué la porte du Parti libéral, il est passé au Parti québécois à une époque où le Parti québécois n'était pas très fort. Et en fait, c'est ça, il est devenu résolument indépendantiste à cause de la langue française. Il a mené un grand combat pour la langue française. Il a toujours dit que c'était à travers ça qu'en tant que peuple... Et en tant que citoyen, on pouvait se démarquer. Et il a notamment été rédacteur en chef par la suite du journal Le Jour, un journal qui a existé brièvement, qui avait une ligne souverainiste proche du Parti québécois. Plus tard, il est devenu, lorsque René Lévesque a formé son gouvernement, il est devenu premier ministre, il est devenu délégué général du Québec à Paris. Et à ce titre-là, il a été journaliste, politicien. Entre-temps, il a eu des différentes type de fonction publique. Et là, il y a des diplomates. Et dans ce cadre, il a notamment réussi à susciter un compromis politique dans le paysage politique français autour de la reconnaissance d'un Québec indépendant si le oui l'emportait en 80, ce qui n'est pas arrivé, hélas. Mais il a été très impliqué là-dedans puisque c'était pas acquis, nécessairement. On se rappelle du Vive le Québec libre du général de Gaulle, mais c'était pas tous les Français, tous les politicien français qui allait dans cette même lignée-là. Et il y a eu plusieurs autres activités que je ne peux pas mentionner, mais ce qui est très important de mentionner, c'est son combat pour les petits actionnaires qui lui a valu le surnom de Robin des banques.
Robin des banques. Robin des banques, là, c'est assez incroyable. J'ai été voir, là, Yves Michaud a été en cour supérieure contre la Banque nationale du Canada et la Banque royale du Canada, carrément.
Il
s'est remporté lui-même.
Sans
formation juridique. Et j'ai été voir les avocats qui étaient de l'autre côté, ces avocats de deux grands cabinets montréalais, chevronnés. Et il a gagné en cour supérieure et ça a été confirmé par la cour d'appel. C'est assez incroyable. C'est un cas jurisprudence inusité. Mm-hmm. Forcé à introduire des nouvelles restrictions, des nouvelles mesures favorisant la participation des actionnaires minoritaires dans l'Assemblée générale des actionnaires de ces deux banques-là. Mm-hmm. C'est assez incroyable. Puis ouais. Ça, c'est... Je pense
il allait dans les assemblées tout seul, puis il se battait...
Puis au Parti québécois aussi, il brassait. Puis on n'a pas vraiment le temps de parler de ça, mais une des raisons de cette infameuse motion de blâme, là, c'est la relation avec Lucien Bouchard, qui était extrêmement difficile, alors que lui, il allait se présenter dans Mercier juste à ce moment-là.
C'est ça, il y a eu une élection partielle en 2000, et en fait, on a rapporté de façon très trompeuse et hâtive des propos supposément antisémites qu'il aurait dit. J'ai pas besoin de vous sortir de la citation, mais je vous invite à vous renseigner sur l'affaire Michaud. C'est absolument saisissant et scandaleux ce qui s'est passé, puisque qu'est-ce qui est arrivé suite à ces accusations-là, sans qu'il n'ait l'occasion de se défendre? En fait, il y a eu une motion qui a été déposée sans préavis à l'Assemblée nationale pour adopter à l'unanimité pour le condamner et condamner ses propos, et ça a été... Pour Yves Michaud, qui était un grand amoureux des institutions du Québec, il croyait dans les institutions. Ça a été une humiliation profonde et qui n'a jamais été réparée.
Il a eu des excuses personnelles de beaucoup de députés. Il a essayé d'aller en cour pour avoir son droit et avec un très bon avocat qui qui est à la faculté de droit de Russie. Et il n'a pas réussi parce qu'il y a un principe de common law en droit constitutionnel qui s'appelle le privilège parlementaire qui te permet un peu de dire n'importe quoi quand tu es dans le salon bleu. Voilà. Mais la Cour laisse clairement entendre qu'ils ont vraiment merdé, mais elle ne peut pas rien faire en droit. Il n'y a toujours pas eu d'excuse officielle. Ça a été demandé à plusieurs reprises par le Parti québécois.
Puis plusieurs gens très, très importants, notamment Bernard Landry, qui avant de mourir, avait dit qu'il fallait rétablir justice sur ce qui avait été...
Cette année... À sa mort, j'ai vu des représentants du Parti québécois, de Québec solidaire, je crois même du Parti libéral, dire...
Oui, il y avait Jean-Marc Fournier du Parti libéral.
Dire qu'il fallait rétablir. Mais à la CAQ, François Legault est un des derniers députés à avoir voté cette...
Jean-François Simard.
Cette motion qui ne veut pas s'excuser.
Non.
Parce que François Legault est historiquement un proche de Lucien Bouchard et il veut pas... Voilà.
Ça a beaucoup fait dommage à la carrière de Lucien Bouchard, mais ça notamment... Certains disent que ça... contribué à sa démission en 2001, mais on n'a pas l'occasion d'en parler. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on doit conclure l'émission. Merci beaucoup, Kemuel, Lily-Jeanne, Eden, d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
Merci à toi.
C'est toujours un plaisir d'animer et merci à ceux qui nous écoutent. On se revoit la semaine prochaine. Merci.